Pour être au fait de l'actualité des communications, voici Denis Foucault de l'agence de communication Les Fous de la Com.
Oui, on va le rejoindre du côté de Trois-Rivières. J'ai toujours hâte au mercredi pour aller lui parler. Denis, bonjour.
Oui, bonjour Guylain. Moi aussi, j'ai toujours hâte. C'est toujours le mercredi, une journée où c'est faste en événements, en actualité. On a tellement de choses à se dire.
Ben oui, tu vois ça, il se passe toujours plein de choses. Puis t'as l'embarras du choix pour commenter finalement.
Ben tout à fait. Puis quand on dit l'embarras du choix, dans le sens qu'il faut faire un choix, puis c'est pas toujours facile. Mais j'essaie de trouver des sujets qui, évidemment, touchent nos auditeurs. Puis d'ailleurs, ce qui est arrivé hier avec le verdict qui a été rendu aux États-Unis. Pourquoi qu'on parle des États-Unis? C'est parce qu'ici, on est touché, hein? On est des Nord-Américains. Et on l'a vu dans le mouvement MeToo, qui est quand même né des États-Unis, puis comment ça a déferlé ici au Québec aussi.
Et le verdict qui est tombé après 17 heures hier, Derek Chauvin coupable sur les trois chefs. Mon Dieu que ça fait du bien ça. Puis toi, tu parles d'un vent de fraîcheur qui souffle en ce sens sur le racisme aux États-Unis, mais est-ce que ce sera seulement qu'une brise?
Ouais, c'est la question que je me pose. Je dois te dire que moi, j'étais comme bien des gens inquiets. Qu'est-ce qui était pour subvenir? Moi, je me disais, tiens, on va trouver un doute raisonnable. Et il va réussir à être acquitté de cette façon-là. Puis on a parlé à cette émission la question du doute raisonnable souvent. Puis c'est arrivé dans le cas d'Éric Salvaille, de Gilbert Rozon aussi. Et là, ben non, ça a été vraiment un verdict unanime qui est tombé rapidement. Moi, c'est la réaction de Chauvin. Hein. Tu sais, premièrement, il n'a pas témoigné à son procès. Il est resté impassible. Donc là, c'est d'avoir cette réaction-là. Sans même pleurer, parce qu'on pense que la sentence là, qui va lui être décernée prochainement pourrait se situer entre 12 à 20 ans de prison. Mais c'est comme s'il y a une arrogance là-dedans en n'émettant aucune émotion. Il y a quand même eu mort d'homme. Il n'a pas essayé d'atténuer comme tel la sentence qui va lui être livrée. Donc, est-ce qu'il va le faire plus tard? Est-ce qu'il y aura des représentations sur sentence et que Chauvin va pouvoir parler? Je pense que non. Je pense qu'habituellement, quand on est rendu là, c'est des plaidoiries sur sentence. Donc, j'ai trouvé ça assez particulier. C'est comme s'il a voulu rester encore l'homme autoritaire qu'il a été avec son fameux genou sur la gorge, sur le cou de George Floyd. Enfin, c'est un peu particulier. Pourquoi je me pose la question si ça sera juste une brise? Ça prend plus que ça. Et Joe Biden l'a dit, lui, était soulagé, évidemment, parce que là, ça aurait pu... être la violence qui déferle dans plusieurs États américains. Mais ça va prendre plus que ça. C'est pour ça que je me demande que ça soit juste une passade. Est-ce qu'on va dire juste c'est un élément comme isolé? Parce que, tu sais, Guylain, faut pas se leurrer. Hein. S'il n'y avait pas eu cette fameuse vidéo qui a tourné en boucle à travers le monde entier, je ne crois pas que Chauvin aurait été reconnu coupable.
Non, parce que c'est un 8 minutes 39 secondes, je pense, qui est assez... Ouf!
Oui, et en plus, les policiers doivent assurer la sécurité. Alors, dans ce cas-ci, on avait un homme qui avait de sérieux problèmes. Là, George Floyd était sur le point de mourir. Il y a trois autres policiers à côté qui assistent à la scène. Eux vont devoir, évidemment, ils vont devoir subir leur procès. Eux autres, ils doivent être sérieusement inquiets maintenant avec le verdict qui a été rendu hier. Donc, en toute cohérence, normalement, eux autres aussi devraient écoper de sentences de prison. Alors, je me pose de sérieuses questions parce qu'un policier doit porter assistance à une personne qui est en détresse. Et là, George Floyd était en détresse. Il n'y a pas eu de manœuvre de premier secours, même si ces gens-là sont formés. Alors, c'est toute cette question-là de culture.
Je comprends. Moi, avoir été policier avec lui, il me semble que je lui aurais dit à l'oreille, arrête, Seigneur.
Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de complicité, même si c'était pas volontaire, c'était pas prémédité, c'est-à-dire c'était pas prémédité ce meurtre. À tout le moins, ils ont assisté de façon impuissante. Et là, on voit que c'est toute une culture à changer. Et on doit aller changer, même si on arrive avec des lois, il faut que ça change dans la tête, dans le cœur du monde. Le racisme, c'est vraiment un mal là, qui est pernicieux. Et on l'a vu dans l'histoire de Camara ici au Québec. Ça nous a touchés immédiatement. Ça a pris quoi? Une semaine avant qu'il y ait des excuses qui soient présentées par le corps de police montréalais. Alors, c'est ça, c'est pour ça que je me dis, est-ce que là, ça sera finalement un élément parmi tant d'autres? Parce qu'on a assisté au meurtre de Martin Luther King, On a assisté à combien de personnes noires qui ont été comme ça victimes? C'est même pas des erreurs policières, comme là on parle d'une erreur policière qui est arrivée il y a quelques semaines, en fait il y a deux semaines, quand une agente de police a tiré, s'est trompée, semble-t-il, plutôt que son revolver, son taser gun, elle a utilisé son revolver, puis elle a tué quelqu'un. Et à chaque fois, ces derniers temps, on a vu, c'était pour des banalités, des petits éléments, comme encore dans le métro de Montréal cette semaine, où on a vu quelqu'un, bon, qui ne paie pas son passage, ça c'est pas correct, mais qu'on l'a tabassé dans le métro de Montréal. Alors, on a beau vraiment parler de racisme systémique.
Oui, mais on n'a pas tout dans le métro de Montréal, je pense qu'on n'a pas toutes les preuves. Là. Moi, me faire mordre au sang, là, je réagirais aussi.
Oui, mais c'est juste pour te dire à quel point j'ai un collègue justement qui m'a dit il y a quelques jours qu'il y a eu sur son terrain de stationnement de son dépanneur, il y a eu une bataille. Et un policier est entré à l'intérieur du dépanneur, puis c'est lui qui est le propriétaire, puis on lui demande de s'identifier. Puis on le blâme de pas avoir une caméra de surveillance. Il y en avait une partie du stationnement, mais l'autre partie n'était pas couverte par cette caméra de surveillance. Et sur un ton assez agressif. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a comme quelque chose qui... On doit maintenir l'ordre, mais il y a quand même une façon de faire les choses. Et c'est pour ça que j'en appelle, moi... à une réflexion en profondeur, parce que même au Québec, on s'entend pas sur la question de racisme systémique, et on sait qu'il y a de plus en plus de gens de communautés culturelles qui viennent d'autres pays à chaque année, avec quoi, 30 à 50 000 personnes de plus. Alors, il y a une montée de l'intolérance, et c'est pour ça que j'espère que ce ne sera pas simplement une part, ce qui est arrivé aux États-Unis, qu'on va vraiment réfléchir ici aussi et au Canada.
Et comme je le disais tantôt, il y a un projet pilote pour des caméras d'intervention pour les policiers, puis ça va commencer à Rimouski là, très prochainement. On va surveiller ça.
Ah, mais c'est bon ça.
La pluie de milliards en provenance d'Ottawa, oui, tu te demandes toi aussi, est-ce que c'est prélude à l'élection à l'automne?
Ben, c'est toujours la question qu'on se pose, parce que là, la pandémie, elle a le dos large. Les libéraux, déjà, c'est dans leur culture de dépenser beaucoup d'argent. Puis moi, je me pose la question, où va-t-on arrêter? Alors, il y a énormément d'argent qui a été dépensé en 2020-2021. C'est 354 milliards, finalement, de dollars qui étaient investis et qu'on se retrouve en déficit pour l'année dernière. Et l'année en cours, actuellement, on parle d'un 154 milliards qui va s'ajouter. Donc, si on calcule bien, ça fait 500 milliards de dollars. Et déjà, on n'arrivait pas à l'équilibre budgétaire avant la pandémie. On avait un déficit en 2019-2020 de 39 milliards de dollars, alors que l'économie se portait bien avant la pandémie. Alors, je me dis, les générations futures, là, on parle déjà des générations actuelles, des jeunes qui sont touchés au niveau de leur avenir. On le voit au niveau de l'école, comment c'est difficile, le décrochage scolaire. Et quand je regarde le déficit, là, le lourd déficit qu'on est en train de... la dette à long terme qu'on ajoute pour ces jeunes, je me pose de sérieuses questions. Enfin, il y a quand même des bonnes nouvelles à travers ça. On va continuer à aider les entreprises. On va les aider, entre autres, pour engager des nouveaux employés. Donc, on va payer une partie à ce moment-là du salaire des employés. Donc, tout ça, c'est graduel parce qu'évidemment, il faut que les gens le fassent assez rapidement. Parce que cette aide-là va prendre fin au mois de novembre, mais il faut, dans cet incitatif à l'embauche, à ce moment-là, de procéder assez rapidement. On peut saluer la question, puis ça fait longtemps qu'on entend parler du programme de garderie à l'ensemble du Canada. C'est quand même le modèle du Québec hein, qui est extraordinaire là-dedans. Mais le gouvernement du Québec, qui sera appelé à payer la moitié du coût public des garderies, ben ça sera pas finalement, même s'il a déjà investi dans le réseau, ben c'est pas finalement, ça va être de l'argent, ça sera pas de l'argent neuf que le gouvernement va pouvoir prendre et mettre ailleurs, par exemple, sur la santé. Ça, c'est dommage, parce que là, on va dire, non, vous devez investir au niveau des garderies alors que c'est déjà fait. Donc ça, c'est, je pense que là-dessus, je peux comprendre le Québec, à quel point on peut être très déçu, parce que la priorité toujours, en tout temps, c'est la santé, et encore plus avec la pandémie. On a énormément d'argent de ce côté-là qu'on doit mettre, entre autres pour remettre sur rail notre système de santé, autant les hôpitaux, autant les CHSLD, les nouveaux CHSLD, donc les maisons des aînés du gouvernement de la CAQ. Donc, Ça va prendre de l'argent pour construire des nouvelles infrastructures. Donc, je pense qu'on n'a pas répondu aux besoins des provinces dans le dernier budget. Ce que j'ai remarqué aussi, quand on parle de budget préélectoral, on sait à quel point les aînés, c'est important. Donc, c'est pour ça que le fameux chèque Guilin qui arrive au mois d'août, pourquoi le chèque il arrive pas tout de suite là au mois d'avril? C'est pour ça qu'on parle d'un budget qui est électoraliste, comme si on veut acheter les votes des gens, parce que là, on s'entend que le budget a été présenté et que là, le NPD va voter en faveur du budget, tout simplement parce qu'on est en pandémie, c'est ce qu'on dit. Mais on peut vraiment s'attendre, là, c'est tellement tracé dans le ciel, l'alignement parfait de toutes les étoiles, parce que le gouvernement va vouloir, parce qu'il est en avance dans les sondages, puis il présente un budget avec autant de milliards, ben on s'attend vraiment à ce qu'il y ait des élections qui soient déclenchées cette année. Donc, on s'attend à ce que ça soit pas évidemment l'opposition qui fasse tomber le gouvernement, mais que ça soit le gouvernement lui-même qui s'en aille en élection. Et ça devrait se faire quelque part au mois d'août, septembre. Et c'est pour ça que les fameux chèques, moi, ça me donne un goût amer quand je vois ça, un chèque de 500 $ qui va être donné aux aînés, puis après, on déclenche les élections. Ah! Avec l'argent des contribuables. Hein.
Toi, tu l'auras pas, je pense. Tu n'y auras pas droit, hein, non?
Ah non, j'y irai pas droit, mais toi, tu l'as presque sur le bout des doigts.
Oui, oui, oui. T'es drôle. Allez, dernier sujet, il nous reste trois minutes, Denis. Tu veux nous faire découvrir, en fait, les avantages des applications en streaming là, pour diffuser du contenu en direct sur les plateformes sociales.
Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là, ils ont des entreprises et qui font des vidéos en direct, par exemple, des Facebook Live, des Instagram Live. Là, maintenant, on peut commencer même à faire des vidéos en direct sur LinkedIn. Alors, il y a des plateformes qui existent où on peut finalement faire un direct sur toutes ces plateformes-là en même temps. Alors, je vous donne l'exemple avec StreamYard. J'ai eu l'occasion justement d'animer sur LinkedIn une émission il y a 2 semaines et j'ai trouvé ça fantastique parce que là, j'ai eu vraiment le contrôle de l'application. C'est l'animateur régulier qui m'a permis de faire ça parce que c'était son anniversaire. Donc, ce que je trouvais extraordinaire avec cette plateforme-là, c'est que on pouvait parler à la fois sur LinkedIn, sur Facebook et également sur YouTube. Donc, on pouvait tirer finalement dans plusieurs directions sur plusieurs plateformes. Et ce qui était très convivial avec StreamYard, c'est qu'on pouvait, par exemple, prendre des commentaires des gens qu'on avait dans le clavardage, qu'on pouvait mettre ça en évidence. Évidemment, il y avait aussi toute cette question-là de pouvoir regarder par la suite une vidéo en direct, en différé. Donc, on peut revenir à ce moment-là sur les commentaires qu'on a déjà eus. J'ai trouvé la plateforme qui était très, très conviviale. Il y en a une aussi, parce qu'on parle souvent de Zoom, hein, t'as entendu parler de Zoom?
Oh, oui.
Je pense que bien des auditeurs aussi. Mais quand on veut réunir, par exemple, beaucoup de gens, des spectacles, il y a une plateforme qui s'appelle AirMeet, qui peut même avoir en ligne 100 000 personnes, t'imagines? Donc, comment les technologies modernes puissent nous aider. Il y a beaucoup de congrès actuellement, puis on se pose des questions, est-ce que ça va avoir lieu? Cet automne, par exemple, on se pose des questions. Tu vois, comme les francophonies, et le Festival de jazz à Montréal, ça a été déplacé à l'automne. Alors, des événements, il y a certains événements qu'on se pose des questions, est-ce que ça aura lieu physique, virtuel? Mais il existe justement des plateformes comme ça qui nous permettent finalement de continuer à vivre. Mais on vit un événement. Et on dit que les communications ne seront plus les mêmes après la pandémie parce que justement, on a mis au monde des nouvelles applications puis les gens, ben, ils ont cru à ces applications parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les événements n'avaient pas lieu. Donc, on a besoin nécessairement de communiquer. On est des êtres sociaux.
En effet.
Alors, il faut s'ouvrir là-dessus.
Intéressant ce que tu nous dis là, Denis. Comme toujours, de belles recherches. Puis, au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci. Denis Foucault, donc notre chroniqueur du mercredi.
Cette chronique Communication Actualité était une présentation de l'agence Les Fous de la Com, spécialisée entre autres dans la production de vidéos.